RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent. Comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix et désormais, vous le savez, en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Récemment porté au cinéma par la réalisatrice Isabelle Brocard, sous les traits de Karine Viard, la marquise de Sévigné a côtoyé tous les grands de son temps, celui de Louis XIV, Fouquet, Turenne, Condé, La Rochefoucauld, Madame de Lafayette. Ces lettres, les lettres de Madame de Sévigné, restent aujourd'hui l'un des premiers témoignages sur le grand siècle. Mais cette femme fut aussi une orpheline heureuse, une très jeune veuve, une mère plus que tendre, une voyageuse incessante entre Paris, la Bretagne et la Provence. Elle participa à sa manière, disent certains aujourd'hui, au mouvement d'émancipation des femmes par la culture, à un moment où l'identité féminine déjà se cherchait. Nous allons explorer cette époque, cet auteur et cette correspondance en compagnie de notre invitée Geneviève Haroche-Bouzinac. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous signez chez Flammarion la biographie de la marquise de Sévigné, donc sobrement intitulée Madame de Sévigné dans la collection Les grandes biographies chez Flammarion. Et puis avec nous également Camille Esmin-Sarrazin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à l'Université d'Orléans, spécialiste de la littérature française des 17e et 18e siècles. Vous avez édité en 2014, dans la prestigieuse Pléiade de Gallimard, les œuvres de Madame de Lafayette. Vous avez également publié chez Garnier la fabrique du roman classique. Voilà, avec nos invités, nous allons explorer avec Marie de Sévigné les coulisses du grand siècle.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Geneviève Haroche-Bouzinac, vous signez chez Flammarion Madame de Sévigné. Vous êtes par ailleurs professeur émérite à l'Université d'Orléans, spécialiste des correspondances. Vous dirigez la revue épistolaire. Alors tout de suite, nous devons nous interroger, quelle femme fut Madame de Sévigné, dans quelle époque? D'abord, il faut peut-être rappeler son ascendance prestigieuse, au moins du côté du calendrier catholique, puisqu'on compte Saint-François de Sales et Jeanne de Chantal parmi ses ascendants.
Oui, alors Jeanne de Chantal était sa grand-mère,
oui.
Mais François de Sales était l'ami de sa grand-mère, donc
voilà.
Elle n'a pas le lien de parenté avec lui. Et cette grand-mère, dont on a beaucoup dit qu'elle était très lointaine, était en réalité très préoccupée du sort de celle qu'elle avait surnommée la petite Cantaline. Et donc, dans la petite Chantal, tout
la
simplement.
Petite Chantal,
voilà, la petite Chantal,
la
puisque.
La petite Cantaline, d'accord.
Voilà, par son père,
oui.
Marie appartenait à la famille des Rabutins Chantal. Et donc, Jeanne de Chantal l'avait surnommée ainsi, puisqu'elle mm-hmm. était la plus jeune de ses petites filles. Et cette Jeanne de Chantal, dans sa correspondance, évoque assez souvent la mère de la future Madame de Sévigné, Marie de Coulanges, et elle évoque également cette petite fille qu'elle appelle notre petit lien, un petit lien entre les deux dynasties. Elle ne la voyait pas très souvent, puisque Jeanne de Chantal était très occupée par la fondation des différents monastères qu'il a occupés pendant presque une vingtaine d'années. Mais en revanche, chaque fois qu'elle venait à Paris au couvent de la Visitation, elle réservait une entrevue qui pouvait durer une heure ou un peu plus ou un peu moins à cette petite fille. Et Jeanne de Chantal était réputée pour son rayonnement, son art de la conversation, sa grande capacité épistolaire. Et on peut supposer que la petite fille a pu être dans une certaine forme d'admiration vis-à-vis de cette grand-mère. Mmh. Et d'ailleurs, à un certain moment, lorsqu'elle voyage à travers la France, elle s'arrête dans un couvent et dans la cellule même où sa grand-mère est décédée. Et elle note en tête de la lettre ce lieu. Donc, les en-têtes de lettre sont souvent une façon que peut avoir Madame de Sévigné pour exprimer des émotions.
D'accord.
Et donc, même si elle parle relativement peu de cette grand-mère, eh bien, on sent sa présence à la fois dans les lettres de Jeanne de Chantal et aussi par moment très fugace dans la correspondance de Madame de Sévigné.
On comprend en vous écoutant que ce goût pour la correspondance et ce goût pour la conversation qu'on va détailler dans un instant viennent peut-être de cette grand-mère.
C'est possible.
C'est possible. Nous allons voir. Alors parlons maintenant de son papa, son père dont on dit qu'il fut un gandin aux multiples conquêtes. Il mourut en duel. Racontez-nous, Geneviève Haroche-Bouzinac.
Alors, le Celse Bénigne de Rabutin a effectivement été l'acteur de nombreux duels, mais il n'est pas mort en duel. Il est mort au siège de l'île de Ré, à la descente des Anglais. Il est mort de façon héroïque. Il s'était engagé, s'est engagé volontairement auprès d'un de ses amis dans ce conflit et il est mort à ce moment-là. De lui, on disait qu'il était fort élégant. Et Bussy-Rabutin, un de ses neveux, disait tout jouait en lui. Donc c'était un homme séduisant, avec beaucoup d'esprit. Et c'est essentiellement cet esprit qui est resté dans le souvenir de ses proches.
Rappelez-nous, Geneviève Haroche-Bouzinac, vous avez mentionné le siège de l'île de Ré. Quel est le contexte?
Un conflit contre les Anglais.
Oui.
On avait même dit que c'était Cromwell lui-même qui lui aurait porté le coup de grâce, mais ça c'est légendaire.
Oui. Donc Marie de Sévigné se retrouve orpheline. À quel âge?
Alors, elle se retrouve orpheline. Son père disparaît lorsqu'elle a 18 mois, donc elle n'a même pas le langage. Quelquefois, elle évoque, justement, dans une de ses lettres, le jour de la Madeleine, Sainte Madeleine, où a disparu un père que j'avais. Vous voyez, elle ne dit pas mon père, elle dit un père que j'avais. Donc ça, c'est quelque chose qui traduit cette émotion, enfin cette absence sur laquelle s'est construite son enfance. Et elle perdra sa mère à 7 ans. Et il est probable que Marie de Coulanges a entretenu la petite dans le souvenir de ce père. Et il semble qu'il s'agissait d'une union assez heureuse entre les jeunes gens.
D'accord. Voilà. Qui donc a pris en charge l'éducation de Marie de Sévigné, compte tenu du fait qu'elle était orpheline très jeune?
Alors, c'est d'abord son grand-père, Philippe Ier de Coulanges, puis ce grand-père et sa grand-mère, Marie de Bèze, et puis ce grand-père, qui était beaucoup plus âgé, disparaît, et alors ce sera Philippe II de Coulanges, c'est-à-dire le fils aîné de, son oncle en fait, le fils aîné de Philippe Ier. Et cette famille Coulanges, c'est une famille très rieuse, très gaie. Très fortunés aussi. Ils vivent dans un très bel hôtel sur ce qu'on appelle aujourd'hui la place des Vosges, la place royale.
Oui.
Donc le grand-père avait acheté sur lequel le grand-père avait acheté deux parcelles.
Deux parcelles,
donc,
oui.
Là, on a
c'était un lotissement.
Voilà, c'est un lotissement.
Voilà.
Et donc voilà, la famille avec des oncles, cinq oncles, une tante, des cousins, des cousines. Donc une orpheline qui vit dans un milieu où est représentée la jeunesse. Hein, voilà.
Et jeunesse enjouée.
Une jeunesse enjouée.
Plutôt
voilà.
Gaie, plutôt bien entourée.
Bien entourée. Elle est très jolie.
Oui. Ça se sait très vite.
Voilà. Et donc, elle attire les regards, la bienveillance, même si, certainement, au cœur de la fondation de sa personnalité, reste cette blessure de l'absence.
Des absences.
Voilà, des absences.
Et cette absence va se renouveler puisque cette jeune beauté, comme vous nous la décrivez, va se marier très jeune.
Oui.
Et puis va être veuve.
Oui, voilà. Elle va épouser un jeune seigneur, Henri de Sévigné, dont la noblesse est beaucoup plus ancienne que la noblesse des Coulanges. Et ce jeune seigneur, comme beaucoup de ses contemporains, apporte dans sa corbeille de noces des terres, mais aussi énormément de dettes, que la fortune de Marie de Sévigné, qui est considérable, va permettre de combler en partie seulement. Donc ces deux jeunes gens vont mener une vie heureuse. Ils sont tous les deux engagés du côté de la Fronde, contre le parti d'Anne d'Autriche et de Mazarin.
Voilà, l'époque est troublée.
De bandes frondeuses, voilà, on dira. Voilà, c'est une époque très troublée.
Mmh. Camille Esmin-Sarrazin, vous êtes spécialiste donc de la littérature française des XVIIe et des XVIIIe siècles. Rappelez-nous, plutôt décrivez-nous quel était le statut du jeune veuve à cette époque-là, puisque Marie de Sévigné a été veuve à 25 ans. Était-ce un statut favorable ou un statut très, très difficile à vivre ?
Difficile de trancher pleinement entre les deux. Dans la littérature française, le statut de veuve est vu comme un statut plutôt positif pour les femmes parce qu'il leur permet d'accéder à une certaine liberté, à la fois financière et dans le mode de vie. En même temps, on voit bien à travers les parcours de femmes dont on connaît un petit peu l'histoire que ça n'est pas, sont pas non plus des parcours forcément si simples. Aux yeux de la cour, aux yeux des cercles qu'elles peuvent fréquenter.
Mais c'est un synonyme de liberté.
Oui, c'est souvent un synonyme de liberté.
Oui, Geneviève Farroche-Bouzinac, de quelle façon, quel était globalement le statut d'une femme de ce milieu-là, de ce monde-là, à cette époque-là, et en quoi le fait d'être veuve pouvait apporter plus de liberté ?
Eh bien, c'est-à-dire que dans le cas de Marie de Sévigné, si on peut s'exprimer ainsi, sa première chance, c'est qu'elle est veuve et orpheline. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à retomber, parce qu'une jeune veuve retombait sous la tutelle paternelle. Voilà. Donc, ce qui n'est pas son cas. Elle peut tester, elle peut signer des actes notariés.
Est juridiquement libre.
Elle est juridiquement libre. Elle peut disposer également de sa fortune et en l'occurrence, elle bénéficiera des conseils de son oncle très avisé, l'abbé de Coulanges, qu'on appelle le bien bon. Elle pourrait songer à un remariage, comme il arrive très fréquemment.
Puisqu'elle a 25 ans, elle est très belle.
Il arrive très fréquemment dans son entourage. Mm-hmm. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le remariage placerait ses propres enfants sous la tutelle du nouvel époux. Ça, c'est probablement une des choses qui fait hésiter le plus Marie de Sévigné. Elle a eu des exemples très négatifs dans la famille de son époux. Et donc, je pense que ce statut de veuve lui convient, évidemment, comme le disait Camille à juste titre, s'il s'assortit d'une aisance financière.
Voilà, il faut avoir les sous qui vont avec.
Absolument.
À l'époque, c'est la garantie de la liberté, quand même.
Ben, disons que c'est ce qui permet de vivre, de se déplacer avec facilité. Seulement, il faut quand même penser une chose, c'est que Madame de Sévigné ne sera jamais propriétaire d'un hôtel particulier à Paris à chaque fois qu'elle déménage. Elle est locataire.
Oui.
Donc elle a des biens en Bourgogne de par sa famille personnelle et puis les biens de son époux en Bretagne. Mais sa fortune n'est pas assez importante pour qu'elle puisse prétendre acheter l'hôtel Carnavalet, par exemple, où elle va résider à la fin de sa vie.
Où elle vécut, oui.
Voilà.
Donc vous avez mentionné tout à l'heure, Geneviève Arroche-Bouzinac, l'importance des terres, l'importance des dettes. C'est aussi l'importance des stratégies matrimoniales et patrimoniales. C'était un travail à plein temps, en quelque sorte.
Oui, c'est pour une mère, c'est un travail à plein temps. Elle a deux enfants, donc elle a Françoise qu'elle va finir elle va finir par trouver un parti qui est à la fois prestigieux.
Monsieur de Grignan.
Monsieur de Grignan, un homme deux fois veuf. Hein. Toutes ces femmes sont mortes pour faire place à votre cousine, annonce-t-elle à ses
cousins. Était-ce un mauvais présage?
À ses cousins Coulanges. Bon, un mauvais présage, je ne sais pas, mais Françoise était éprise de son époux, qui était fort laid, mais bel homme, séducteur.
Puissant.
Aimant, oui, voilà. Très bon administrateur. Il est probable que Françoise ait admiré cet homme. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle voulait vivre auprès de lui. Donc, en ce sens, on peut dire que cette stratégie matrimoniale a réussi. Quant à son fils, qui s'est marié beaucoup plus tard, Charles, dont on parle un peu trop peu, il s'est marié à 37 ans et il a fait un mariage heureux, lui aussi, avec Jeanne-Marguerite de Bréhant de Mauron, qui appartenait à une vieille famille de noblesse rennaise. Donc voilà, elle avait fait son travail,
on peut dire. On va revenir sur ces destins croisés, mais évidemment il faut faire droit à un événement médiatique récent, puisque pour la plupart de nos auditeurs, Madame de Sévigné, c'est encore un film qui est sorti récemment. On va écouter la bande-annonce de ce film réalisé par Isabelle Brocard avec Karine Viard et Anna Girardeau dans les deux rôles principaux, c'est-à-dire Marie de Sévigné et sa fille Françoise, que vous venez de mentionner, avec Cédric Kahn dans le rôle de Monsieur de Grignan. On écoute la bande-annonce et je vous demanderai à l'une et l'autre vos réactions.
Je veux que vous ayez la place que vous méritez. Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée.
Madame de Sévigné, vous vous égarez.
Je ne crois pas, sire. Mais c'est le roi. Vous vous marierez. Tout ça sera oublié.
Grignan!
Vous en êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Le nom de Grignan peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts.
Je découvre que l'absence de votre sœur m'est insupportable. La douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre.
Maintenant qu'il a un héritier, votre papa n'aura plus besoin de coucher avec ma fille.
Aimez-moi toujours. C'est la seule chose qui me peut donner de la consolation.
L'argent me manque de plus en plus. Je me ruine.
Et vous me l'avez caché. Le mariage ne vous oblige en rien. Rentrez avec moi à Paris. Je suis tout entière au service de mon mari, que j'aime. Mais c'est quelque chose que vous ne semblez pas comprendre.
Grignan va faire mourir ma fille.
Françoise, il use d'elle. Il abuse d'elle.
Sortez.
Vous ne savez plus l'aimer. Vous en êtes juste obsédé.
Voilà, on vient d'entendre Madame de Sévigné, sa fille Françoise, son gendre Monsieur de Grignan, à travers le film réalisé par Isabelle Brocard, avec Karine Viard, Anna Girardeau et Cédric Kahn dans ses trois rôles. Alors Geneviève Roche-Bouzinac, vous signez chez Flammarion la biographie de Madame de Sévigné. Comment avez-vous vu ce film ?
Eh bien, j'ai trouvé que c'était une très belle évocation. Les décors sont magnifiques, les acteurs très justes, me semble-t-il. L'action commence à un moment très particulier de la vie de l'héroïne, c'est-à-dire au moment de la séparation, ce qui fait que l'accent du film est donné sur la dimension pathétique, sur la souffrance qu'éprouve Marie de Sévigné au moment du départ de sa fille. Elle décrit les relations d'une manière extrêmement conflictuelle, passionnelle.
Était-ce le cas ?
Alors, il est possible qu'à certains moments, il est même probable qu'à certains moments, les deux femmes se soient affrontées d'une façon assez vigoureuse. Mais je pense que la difficulté du film vient du fait de manque de rééquilibrage. Parce que dans la vie de Madame Sévigné, il y avait bien d'autres choses. Il y avait des relations très heureuses avec son fils. Mmh. Il y avait des relations harmonieuses avec ses amis. Et notamment, à un moment donné, dans la bande-annonce, on entend la voix de Madame de Lafayette. Mais Camille Esmin en parlera mieux que moi. On entend aussi la voix du cardinal de Ré, qui était opposé au mariage de Françoise de Sévigné.
Parce que la maison de Grignan prenait l'eau,
voilà,
dit-il.
Voilà, pour des raisons financières. Économiques.
Oui.
Voilà. Et bon, donc je pense que c'est un film qui est très agréable à voir, qui permet aux spectateurs de se transporter au grand siècle, mais il faut le voir comme une sorte d'évocation à propos de la vie de Madame de Sévigné, je crois.
En fait, on pourrait dire en quelque sorte que c'est un apéritif à la lecture de votre livre.
On pourrait
voilà,
dire
qui peut inciter nos auditeurs à lire votre biographie de Madame de Sévigné chez Flammarion. Camille Esmin-Sarrazin, vous êtes spécialiste de Madame de Lafayette, vous avez édité en Pléiade ses œuvres. On l'a entendu en quelques mots à travers cette bande-annonce. La relation entre Marie de Sévigné et Madame de Lafayette a été une relation importante. De quelle façon, Camille Esmin-Sarrazin ?
oui, effectivement, dans le film, oui. Madame de Lafayette joue un rôle assez secondaire, oui. Même si elle intervient un certain nombre de fois.
Elle joue un rôle d'influenceuse, en quelque sorte.
Voilà, d'influenceuse, tout à fait. Oui. Elle donne des conseils. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qui est juste, puisque... à travers les quelques lettres qu'on connaît entre ces deux femmes, à travers les témoignages qu'on peut avoir à leur propos, on voit qu'il y a une réelle intimité, une grande proximité et un certain franc-parler finalement entre l'une et l'autre. Elles se donnent des conseils respectifs à propos de leurs enfants, à propos des stratégies matrimoniales que Geneviève Arroche a pu évoquer tout à l'heure, à propos de... la façon dont il convient de se comporter vis-à-vis de la cour. Donc, effectivement...
Autant de choses essentielles.
Autant de choses essentielles.
Pour survivre.
Tout à fait.
Pour bien vivre, disons. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots, Camille Esmas-Sarrazin, quel était le rôle et l'importance de Madame de Lafayette dans ce monde, disons, des intellectuels à l'époque de Louis XIV?
Alors, Madame de Lafayette... connaît un grand nombre finalement d'érudits et d'hommes et de femmes de lettres de son époque. Elle joue un rôle significatif parce qu'elle est très souvent mentionnée ici et là. Elle est proche de Madame de Sévigné, bien entendu. Elle est proche de personnes plus ou moins connues. Bon, La Rochefoucauld, évidemment, avec lequel on lui prête une liaison et qui joue un rôle pendant une part importante de sa vie. On pense qu'il a pu conseiller un certain nombre de ses œuvres à elle, qu'elle a pu aussi jouer un rôle dans la rédaction, dans la réécriture de certaines des maximes. Elle est proche également d'hommes de lettres moins connus aujourd'hui, Ménage, qui est un grammairien, Pierre-Daniel Huet, qui est un évêque et un érudit, qui signe notamment un traité sur le roman en préface à un de ses propres romans. Segré, qui est également un romancier, auteur de nouvelles, qui joue un rôle dans l'évolution du roman du XVIIe siècle.
Quel rôle a joué Madame de Lafayette dans la création du roman en littérature?
Alors, Madame de Lafayette a écrit plusieurs œuvres très significatives, très importantes pour son époque, assez peu d'œuvres finalement. Donc un premier roman long, Zaïde, 1670. Auparavant, elle avait déjà publié, aucune des œuvres n'est publiée sous son nom, hein, bien entendu, La princesse de Montpensier. Et puis ensuite vient évidemment La princesse de Clèves. Alors toutes ces œuvres renouvellent profondément l'écriture romanesque de son époque, à la fois par un ancrage historique beaucoup plus fort, mais surtout parce qu'on a des œuvres qui font preuve d'une grande concision, pas Zaïde mais les autres œuvres. Et puis je n'ai pas encore cité La comtesse de Tende, qui est une nouvelle publiée de façon posthume. Toutes ces œuvres sont donc... caractérisée par une écriture extrêmement concise, hein, qui tranche avec le roman antérieur dont la grande représentante est Madeleine de Scudéry, qui a écrit, elle, des romans fleuves comme Clélie.
Est-ce qu'on sait, Geneviève Arroche-Bouzinac, si votre héroïne, Madame de Sévigné, entretenait un dialogue suivi avec Madame de Lafayette sur la question des formes littéraires, sur la question du roman, sur la question de la correspondance?
Alors, à savoir si elle entretenait un dialogue littéraire, ça, pour cela, on n'en a pas de traces écrites. Il me semble que c'est plutôt dans les conversations qu'elle devait aborder ces questions littéraires.
On aurait aimé être une petite
voilà,
souris.
Voilà, absolument.
Mais vous l'avez été un peu à travers vos recherches.
Voilà, et en revanche, on a des échos de ce débat dans un dialogue de Madame de Sévigné avec son cousin Bussy Rabutin au moment de la parution de La princesse de Clèves. Alors Bussy et Madame de Sévigné commentent le roman. Bussy demande à Madame de Sévigné si elle ne voudrait pas qu'ils écrivent tous les deux, comme La Rochefoucauld et Madame de Lafayette, sous-entend-il, une œuvre à deux plumes. Madame de Sévigné ne relève pas le défi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que elle est tellement imprégnée de la lecture du roman de La princesse de Clèves que quelquefois, elle forge des expressions comme parler derrière la palissade, mmh. eh bien, qui renvoie à la fameuse scène où Nemours observe Madame de Lafayette regardant son portrait, si je ne fais pas erreur. Mmh. Et un autre moment où elle évoque les belles jambes de Monsieur de Nemours. Alors ça, j'ai trouvé ça très amusant parce qu'en fait, on n'a pas d'iconographie, mais à travers les descriptions de Madame de Lafayette, eh bien, elle a forgé une espèce d'image de Nemours comme une sorte de Don Juan. Donc ça, c'est très vivant, c'est très amusant. Donc, effectivement, je pense que les deux femmes devaient parler de l'univers romanesque. Mais il y a aussi une autre œuvre que Camille a éditée dans sa belle édition de la Pléiade, c'est l'histoire d'Henriette d'Angleterre. Et Madame de Sévigné avait connu Henriette d'Angleterre, qui avait dansé un ballet avec sa propre fille. Et donc, il me semble que là, il devait y avoir un point de jonction, finalement, sur cette écriture de l'histoire entre les deux femmes. Alors, il faut rappeler que Madame de Sévigné a 24 ans quand elle fait la connaissance de Madame de Lafayette. Elle est un peu plus âgée qu'elle.
Elles resteront amies jusqu'à la fin.
Elles resteront amies jusqu'au dernier souffle.
Oui, jusqu'au dernier souffle.
Oui, jusqu'au dernier souffle, parce que Madame de Sévigné va plusieurs fois, sachant que son amie est souffrante, veut faire le voyage, et puis finalement, elle va quand même être présente à Paris moment de la mort de Madeleine.
Alors remontons le fil de l'histoire, si vous voulez bien, à Geneviève à Roche-Bouzinac. On va reparler de cette fameuse fille Françoise. Si je vous ai bien lu, Françoise a fait la promotion de sa fille auprès du jeune Louis XIV. Jusqu'à quel point et en quoi cela pouvait-il correspondre à une stratégie à l'époque entre les familles?
Vous voulez dire que Madame Sévigné aurait fait la promotion de sa fille auprès de 14? Rien n'est moins sûr, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que le monarque avait jeté les yeux sur Françoise parce qu'elle était très belle.
Oui.
Et donc, et c'est à cette occasion qu'elle est montée 3 années de suite sur la scène de ce qu'on appelait le ballet de cour, c'est-à-dire des espèces de représentations dans lesquelles le roi se donnait en spectacle et montrait combien il était agile et combien il savait danser. Donc,
le roi aimait danser.
Voilà. Et donc, Françoise Marguerite, qui était une très bonne danseuse, se produit à ses côtés. Alors, évidemment, 3 années de suite, aux côtés d'Henriette d'Angleterre sur la scène, on jase.
Oui.
Et on peut penser que le monarque jette les yeux sur elle. D'ailleurs, La Fontaine, ça n'a pas échappé à Jean de La Fontaine, qui dédie la fable du lion amoureux à Françoise Marguerite de Sévigné. Et donc, alors, à partir de là, ce sont uniquement des conjectures. On ne sait pas bien ce qui s'est passé véritablement.
Oui. Et on ne le saura jamais.
Et on ne le saura jamais.
Et il faut mieux s'en tenir là, après tout.
Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier, aujourd'hui avec nos invités, nous tentons d'explorer les coulisses du grand siècle en compagnie de Marie de Sévigné. Marie de Sévigné, sur laquelle Geneviève Haroche-Bouzinac signe une grande biographie chez Flammarion. Nous sommes également en compagnie de Camille Esmin-Sarrazin, maître de conférence à l'Université d'Orléans, qui a édité en Pléiade chez Gallimard les œuvres de Madame de Lafayette et qui a publié La fabrique du roman classique chez Garnier. Alors, Geneviève Haroche-Bouzinac, on a évoqué les ascendances et le milieu de Madame de Sévigné. Je voudrais que vous nous apportiez quelques précisions sur ce qu'on sent à travers votre livre, cette sorte de, sur le plan financier, dans ces familles-là de la haute aristocratie sous Louis XIV, la dictature des charges à acheter puis revendre, la négociation des mariages, la dictature des emprunts, c'est quelque chose qui est omniprésent. L'angoisse de l'argent est omniprésente.
Oui, c'est-à-dire que c'est une sorte de culture de la dette,
finalement.
Charles de Sévigné, donc le père d'Henri, va léguer des dettes à son propre fils, des conflits issus de son remariage.
Parce qu'il a été deux fois veuf, donc.
Voilà. Grignan lui-même rembourse les dettes de ses parents avec la dot de sa première épouse, puis avec la dot de sa seconde épouse, il rembourse les dettes, etc., etc. Donc effectivement, les archives sont pleines de ces de documents indiquant comment
on emprunte,
et quelquefois comment on rachète un emprunt ou comment on transmet un emprunt. Et cette culture fera la fortune d'une classe montante qui est la bourgeoisie des traitants, qui sont eux les seuls capables de renflouer ces grandes familles qui finalement n'ont pas de liquidité.
Oui, sont en faillite perpétuelle d'une certaine façon. Il faut rappeler que les charges sont vénales.
Oui.
C'est la question du fils Charles, notamment.
Oui, tout à fait.
Charles de Sévigné, qui éprouve de réelles difficultés à acquérir sa charge.
Oui, sa charge de guidon de gendarme, de guidon de gendarme dauphin.
Alors, quel joli titre.
Voilà. Et il faut dire qu'il y avait quand même un système à deux vitesses. Hein, c'est-à-dire que si l'on était proche du roi, si l'on était parmi ses favoris, par exemple, ça sera le cas du comte du Lude, qui est un des soupirants de Madame de Sévigné, eh bien, dans ce cas-là, le roi octroie des régiments, octroie des charges gracieusement. Ce sont des faveurs. Mais si l'on appartient à une famille comme les Sévigné, de bande frondeuse, une famille qui a toujours été dans l'opposition, rien à faire. Même Louvois, qui est le cousin par alliance de la belle-sœur de Madame de Sévigné.
Quel petit monde.
Voilà. Oui. Eh bien, même Louvois reçoit Madame de Sévigné avec le sourire, mais jamais, au grand jamais, il n'octroiera une charge gratuite à Charles. Donc voilà la difficulté, effectivement.
Donc c'est une sorte de course en avant perpétuelle.
Absolument.
Perpétuelle. Oui. Et dans laquelle, donc, la question de la négociation des mariages joue un grand rôle, puisque, évidemment, les actes signés chez le notaire conditionnent des vies futures, des vies à venir. Alors, il y a un point que nous pouvons oublier aujourd'hui, nous qui sommes installés dans une sorte de confort sanitaire, mais les grossesses sont dangereuses. La femme risque sa vie à chaque naissance.
Absolument, et notamment Madame de Sévigné se souviendra toujours du fait que l'épouse de Bussy-Rabutin meurt en couche lors de la troisième naissance, et ce sont Madame de Lafayette, d'ailleurs, à un moment donné, je crois qu'elle écrit cet aménage, vous me corrigerez, Camille, si je me trompe, elle lui dit, vous savez que on meurt fort bien de ces choses-là.
C'est ça.
Voilà. Donc, il est
pour
vrai.
Pour tout le monde, y compris la haute aristocratie.
Absolument, oui, voilà, il n'y a pas de. On n'a pas. La prophylaxie n'existe pas, l'hygiène périnatale non plus, donc, les femmes sont soumises aux suites des. C'est pas seulement l'accouchement, ce sont les suites, des infections, etc., qui sont fréquentes.
Vous dessinez, Geneviève Haroche-Bouzinac, un monde assez sombre, un monde difficile, un monde tendu, où la question de l'argent est importante, la question des stratégies matrimoniales, patrimoniales, de la place par rapport au cœur de la vie politique qui est la cour, la place est vitale. Elle est non seulement importante, mais vitale. Ce sont des vies extraordinairement tendues, et au milieu de tout ça...
Et fragile, très fragile,
voilà. Et au milieu de tout ça, Marie de Sévigné brosse une sorte de chronique régulière, remarquablement écrite, on le sait. S'agit-il de reportages, de chroniques? Certains disent que Marie de Sévigné, d'une certaine façon, a tenu un blog. Jusqu'où peut-on dire cela? Comment caractériser son œuvre? Dans le contexte qu'on vient de décrire.
Alors, il est vrai que la vie, quelle que soit l'origine sociale, se déroule sur un fond d'insécurité. Donc il y a les guerres de l'Europe.
Oui, il faut rappeler aussi.
Les guerres de l'Europe, les fils partent au combat, beaucoup ne reviennent pas. Par exemple, La Rochefoucauld va perdre deux de ses fils. Bon, donc il y a cette dimension de la politique internationale qui est réelle, qui fait régner la peur. Il y a les troubles de Bretagne, il y a les révoltes, il y a l'insécurité le soir dans Paris, dans le quartier où Madame de Sévigné habite. Eh bien,
le quartier du Marais.
C'est un quartier où il ne fait pas bon sortir la nuit. Voilà, donc c'est une époque. C'est une époque, on pourrait dire, sur le fond, enfin, dangereuse, périlleuse, mais en même temps, toutes ces personnes parviennent par le goût de l'art, de la musique, de la littérature, à échanger, à être heureux. Je pense qu'il y a une, bon, voilà, ça fait partie de leur vie. J'ai oublié la question que vous m'aviez posée au départ.
Non, mais on poursuit cette conversation. Camille Esmin Sarrazin, comment est-ce que vous qualifiez l'œuvre littéraire de Madame de Sévigné? À vos yeux, qui êtes spécialiste de la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles, était-elle journaliste, chroniqueuse, écrivaine? Comment qualifier tout cela?
Entre chroniqueuse et écrivaine, sans doute. Oui. Elle fait œuvre littéraire de façon, enfin, très réelle. Ses lettres sont bien écrites, ont pu être étudiées pour leur style, à juste titre. Et en même temps, on a un certain nombre de faits, de petites choses. Et puis de détails sur des personnes qui nous sont connues essentiellement par elles.
Par elles, donc oui, effectivement, c'est ça. Donc c'est une source essentielle.
C'est une source essentielle, oui. À côté des mémorialistes de son époque, à côté des historiens bien entendu, mais ça n'est pas du tout le même type de savoir qu'elle permet de maîtriser, de découvrir pour nous.
Geneviève Varroche-Bouzina, comment vous qualifiez cette œuvre?
Eh bien, alors d'abord, la question se pose de savoir si on lui donne le nom d'œuvre ou pas. La correspondance a un statut intermédiaire qui dérive de la conversation et qui n'accède pas tout à fait, qui n'accède pas à l'imprimé, hein, du moins du vivant de Madame de Sévigné. Donc, on pourrait parler d'une œuvre épistolaire. Et ce qui est caractéristique de ce type d'écriture, c'est qu'elle est adressée. Donc, Madame de Sévigné ne s'adresse à sa fille, s'adresse à Pomponne, s'adresse à ses cousins Coulanges. Il y a toujours un destinataire, contrairement aux romanciers ou même aux mémorialistes qui, lui, dirige sa parole vers un public non individualisé, un public anonyme. Donc, il y a cette dimension. Alors, ceci n'empêche pas qu'elle ait fait œuvre pour les générations suivantes, qu'elle ait fait, par exemple, une œuvre de chroniqueuse, de reportage, d'historienne, puisque notamment, elle est très célèbre pour avoir relaté tous les épisodes du procès Fouquet. Et c'est une des raisons...
Elle est chroniqueuse judiciaire, également.
Pour ainsi dire, bien qu'elle n'ait jamais vraiment assisté aux audiences, elle a son réseau d'informateurs... Et elle peut relater à son amie Pomponne, qui est exilée, tous les détails qu'elle a appris sur le procès du surintendant Fouquet. Et à les générations suivantes, et notamment Voltaire, lorsqu'il écrit son siècle de Louis XIV, va puiser directement à cette source. Donc il y a cette dimension, et puis il y a une autre dimension qui est une dimension plus récréative, théâtrale. Par exemple, elle est capable de créer des dialogues qui sont toujours très drôles, très amusants. Elle est capable aussi de se faire chroniqueuse de mode. On le voit bien au moment de la fameuse coiffure hurlupée ou de décrire.
De quoi s'agit-il?
Alors bon, il s'agissait d'une nouvelle mode où les dames créent une sorte de dégradé finalement dans la coiffure. Et ça a été un véritable engouement, même la reine. Même la reine s'y était mise. Et donc, Madame de Sévigné décrit ça de lettre en lettre. Et elle propose même d'envoyer une poupée en Provence, parce que les dames de Provence ne sont pas au fait des modes de Paris. Donc voilà. Donc c'est quelque chose, c'est une dimension divertissante. Et puis quand on écrit 3 lettres par semaine, bien, il faut aussi trouver matière, il faut aussi remplir ces lettres. Donc tous les sujets sont bons. Voilà.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame de Sévigné, Marie de Sévigné, avec elle nous explorons les coulisses du grand siècle avec nos deux invités, Geneviève Varroche-Bouzina qui publie chez Flammarion la biographie de Madame de Sévigné qui porte ce titre, et puis Camille Esmin-Sarrazin qui est maître de conférence à l'Université d'Orléans et qui a publié en Pléiade chez Gallimard les œuvres de Madame de Lafayette qui a été, on l'a dit, une grande amie de Marie de Sévigné. Alors Geneviève Varroche-Bouzina, qu'il faut rappeler que cette fameuse correspondance qu'on vient d'évoquer, c'est plus de 700 lettres. Qui dit correspondance dit poste. Et vous décrivez dans votre livre les mécaniques de la poste qui était à l'époque en essence, disons, qui était à ses tout débuts. Comment ça marchait et comment est-ce que la marquise de Sévigné s'ajustait aux horaires de la poste? Racontez-nous.
Alors, il faut dire que Madame Sévigné a beaucoup de chance dans la mesure où elle bénéficie au début de la correspondance avec Françoise de la grande réorganisation du système postal par Louvois. Donc il va en faire une affaire lucrative. Il va équiper presque une trentaine de routes en poste, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des relais, des auberges dans lesquelles on peut changer les chevaux, donc ce qui fait qu'une lettre met approximativement une dizaine de jours pour arriver de Paris à Montélimar, hein, et une huitaine de Paris au Rocher à peu près.
Au Rocher, c'est en Bretagne.
Au Rocher en Bretagne, qui est la demeure des Sévigné. Donc
on changeait les chevaux tous les 20 km, tous les 30 km.
Alors là, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre.
Ça sera dans la prochaine édition.
Mais pour les érudits, il faut savoir qu'il existe un livre de Eugène Vaillé qui est une histoire des postes extrêmement détaillée et dans lesquels on a même des tables. Mm-hmm. On peut savoir exactement le temps que mettait une lettre pour naviguer d'un point à l'autre.
Et donc Marie de Sévigné y était attentive à ce
Absolument,
temps-là.
Absolument, elle était attentive. Lorsqu'elle est en voyage, elle prévoit des étapes dans certains relais de poste pour entrer en possession des lettres de sa fille. Et alors il faut savoir aussi une autre chose, c'est qu'on fonctionne en système de port payé. Port dû, c'est tout le contraire.
Dû, voilà,
oui, de port dû, c'est-à-dire que c'est le destinataire
qui paye.
ou pas. Enfin, et voilà, c'est-à-dire que s'il ne paye pas,
il ne
récupère pas la lettre. Mm-hmm. Voilà. Et donc, s'il y a un système de transport des lettres, il n'y a pas de distribution. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de facteur, ou alors si on a des systèmes de distribution, ce sera extrêmement ponctuel. Par exemple, à l'intérieur de Paris, on va avoir des systèmes de distribution, mais qui ne vont pas perdurer parce que c'était pas rentable.
Mmh, d'accord.
Et donc, il faut que les personnes envoient à la poste, à l'auberge, des serviteurs pour aller chercher le courrier. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est quelque chose qui revient assez cher. Hein. Ça revient à peu près, on pourrait penser, à peu près une cinquantaine d'euros par semaine, on essaie de traduire pour trois lettres.
Donc c'était un gros investissement pour Marie de Sévigné.
Oui, enfin, c'est-à-dire c'est-à-dire envoyer des lettres, c'est une chose, établir une correspondance, c'en est une autre.
Mm-hmm. Voilà. Quel était le statut public de ces lettres? Vous dites qu'elles n'ont pas été publiées de son vivant.
Non, non, non.
Donc ses contemporains avaient-ils connaissance de cette correspondance?
Alors, certainement, quelques contemporains ont eu connaissance de ces lettres, notamment les lettres canoniques, hein, c'est-à-dire les lettres adressées à ses cousins Coulanges, notamment la lettre sur le mariage de Mademoiselle, le fameux épisode du Madrigal du Roi. Donc, il y a des passages canoniques qu'on pouvait
lire dans les salons.
Dans les salons, c'est peut-être beaucoup, c'est beaucoup dire, mais disons qu'on pouvait lire à quelques destinataires. Donc voilà, on touche là à la question centrale du statut privé ou public de la lettre, qui est une question toujours d'actualité, toujours en débat.
À partir de quand la correspondance de Marie de Sévigné est-elle devenue vraiment publique? A-t-elle été publiée?
Alors, en 1696, c'est l'année même de sa mort, il y a cinq lettres à Bussy-Rabutin qui sont publiées dans les mémoires de Bussy-Rabutin. Et puis après, on va avoir quelques éditions subreptices, c'est-à-dire clandestines, en Hollande dans les années 1720-1724, sont des lettres qui ne concernent pas la vie intime. Hein. Et puis après, il y a au cours du siècle la fameuse édition Perrin qui va être supervisée par Madame de Simiane, la petite-fille de Madame de Sévigné. Donc c'est vers cette époque-là qu'on... Alors bon, c'est une édition qui scientifiquement n'est pas correcte. Donc c'est-à-dire qu'on va, avec deux ou trois lettres, on va en faire une...
C'est bricolé.
C'est bricolé, voilà.
Mais donc il a fallu attendre longtemps.
Oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Et un des premiers lecteurs qui va contribuer à la divulgation de l'image de Mme Sévigné, c'est Lamartine, qui est
donc
qui
c'est
est,
très très tardif.
Oui, oui, on peut dire ça. Qui va être le premier biographe, enfin un des premiers biographes de Madame de Sévigné.
Alors, ce qu'on découvre à travers votre biographie, Geneviève Haroche-Bouzinac, c'est que Madame de Sévigné donc a beaucoup voyagé et que les voyages à l'époque c'était compliqué. Elle a voyagé entre la Bretagne, la Provence et Paris. La Provence, puisque sa fille, on l'a dit, était mariée au gouverneur, c'est bien ça, Monsieur de Grignan.
Oui, c'est ça. Il faisait office de gouverneur, voilà. Il était gouverneur.
Et puis la Bretagne, parce que quel était le lien?
Eh bien, les terres d'Henri de Sévigné étaient des terres bretonnes, près de Vitré, dans le beau domaine des Rochers.
Et donc, il faut se rappeler, il faut prendre conscience que la Bretagne, aussi bien que la Provence, c'était le bout du monde.
Oui, ah oui.
C'était le bout du monde, il n'y avait pas de route.
Il y avait des routes, mais il y avait des routes, mais il n'y a pas d'hôtellerie. Donc il faut prévoir un système d'étapes chez des amis. Notamment, elle fait très souvent une étape au Mans. Alors quand on s'arrête, on s'arrête pour 2-3 jours, évidemment, le temps de.
Visite, oui.
Oui, non, de voir ses amis ou de tout simplement de se reposer. Et puis par exemple, il y a aussi bien pour aller. Vers Grignan que vers Rennes, il y a aussi des passages où l'on navigue sur la Loire,
ou sur le Rhône.
Au port d'Orléans. Voilà.
C'était un mode de transport.
On mettait le carrosse sur des genre de gabarre et puis alors le problème c'est que la Loire l'été la Loire est ensablée donc il y a pas de courant donc ça avance très doucement
donc c'était de véritables expéditions
elle est assez téméraire je trouve dans sa façon de prendre ce risque parce qu'il y avait encore une fois la notion de sécurité n'existe pas
Et puis la Bretagne à l'époque c'était aussi l'époque des bonnets rouges
c'est ce que
vous rappelez c'était une époque politiquement troublée comment la marquise de Sévigné a-t-elle réagi
alors elle a réagi en deux temps lorsqu'elle était à Paris elle était fort fâchée de ces révoltes et elle disait il y aura bien de la penderie. C'est-à-dire donc.
C'est joliment dit.
Oui,
on voit de quoi il s'agit.
Oui, donc quand elle s'approche, elle commence à apprendre les exactions qu'ont commis les gendarmes, notamment comment on vide des rues entières de Rennes pour punir la rébellion. Et puis aussi, lorsqu'elle s'aperçoit que la troupe traite très mal ces paysans des rochers, alors là, à ce moment-là, elle va intervenir, parce qu'elle n'a pas les moyens.
Oui.
Mais elle est prise d'une très grande compassion. Notamment, par exemple, il y a un passage dans une de ses lettres qui est tout à fait saisissant, c'est quand elle arrive à Dole. Dole de Bretagne, et qu'elle voit la misère, les paysans dans les rues. Et là, il y a un passage qui est très émouvant parce qu'on sent qu'elle est très proche, finalement. Enfin, au tout moins, qu'elle est en empathie, contrairement à ce qu'on a dit parfois.
Et la Provence, on vient de voir que la Bretagne était très, très éloignée. La Provence également, c'était un autre pays.
Ah oui,
on ne parlait pas la même langue.
Oui, tout à fait.
Le système de pouvoir était particulier. Et comment a-t-elle appréhendé cette contrée exotique?
Madame Sévigné, c'était quelqu'un qui était très gourmande. Et donc, elle appréciait, par exemple, les melons, les fruits, elle en parle. Elle appréciait les perdreaux qui n'avaient pas besoin d'être fourrés avec des sachets de thym parce leur chair était naturellement odorante. Donc il y a toute cette dimension d'appétit de la vie qui est très présente dans les lettres de Madame de Sévigné. Et donc ce qu'elle n'aimait pas, c'est ce vent qu'on appelle aujourd'hui le Mistral et qu'on appelait la bise. Et donc le climat ne lui déplaît. Elle le trouve trop rude, trop chaud, trop sec,
Mais en dépit de la magnificence du château de Grignan, qu'on peut encore admirer aujourd'hui.
Absolument, oui. Il a été détruit puis reconstruit. Mais c'était une véritable cour que tenait Grignan. Il n'y avait jamais moins d'une centaine de personnes dans ce château. Donc il vivait sur un grand train, il avait un orchestre à demeure.
D'où son endettement ?
Oui, il était collectionneur, il avait des poussins, il était glorieux, il aimait la toilette. Donc c'est une atmosphère déjà de cour, de petite cour.
Qui convenait tout à fait à Marie de Sévigné.
Et surtout à sa fille, Françoise.
Et surtout à sa fille, qui était très à l'aise. Dans ce monde, Camille Esmin-Sarrazin, comment peut-on qualifier la langue, vous qui êtes une spécialiste de la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles, comment peut-on caractériser la langue de Marie de Sévigné ? Qu'est-ce qui a fait son succès, à votre avis ?
Madame de Sévigné est associée aux précieuses, notamment parce qu'elle use de néologismes.
Elle invente des mots.
Elle invente des mots. Il y a aussi beaucoup d'expressions, finalement, très figurées, qui sont intéressantes à étudier. Et puis, comme je le disais, il y a un certain franc-parler, un caractère assez direct pour la plupart des destinataires. C'est une langue qui est ainsi associée à un certain nombre de notions, la tendresse, certes, dans les lettres à Madame de Grignan notamment, mais aussi la liberté d'expression et puis l'invention. Il y a un véritable goût de la langue une évolution au fur et à mesure des lettres de ce goût de la langue.
Et puis Geneviève Haroche-Bouzinac, tout cela dans un monde qui est politiquement très très troublé. Et sur le plan religieux également, est-ce que vous pouvez nous retracer à grands traits dans sur quelle toile de fond se jouait ce théâtre de Madame de Sévigné ?
Alors effectivement, les questions religieuses sont très complexes au XVIIe siècle. Bon, il y a dans sa famille, elle a plusieurs personnes et notamment son oncle par alliance, René de Sévigné, qui est proche des messieurs de Port-Royal, qu'on appellera ensuite les jansénistes.
Donc, une sorte de dissidence catholique, on peut dire.
Oui, je ne sais pas si le terme conviendrait bien, mais je ne saurais pas exactement quel terme employer qui pourrait satisfaire les spécialistes de Port-Royal.
Nous ne parlons pas aux spécialistes.
voilà. Donc effectivement, il y a cette dimension. Madame Sévigné n'est pas particulièrement attirée par la foi telle qu'elle se pratique à Port-Royal. Lorsqu'elle voit les religieuses de Port-Royal en extase, elle est tout à fait interloquée.
Ah oui.
Elle évoque notamment une phrase de son père. Elle dit mon père disait qu'il aimait Dieu lorsqu'il était bien aise. Je crois que je suis sa fille.
D'accord.
Donc voilà. Donc il y a elle se plaint de cette difficulté à entrer en contact avec Dieu. Je crois qu'il faut dire les choses clairement.
Elle s'interroge sur sa foi.
Elle s'interroge. Oui. Voilà. Et d'autre part, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, là, elle a une attitude qui est résolument du côté des catholiques. Elle ne prend pas du tout parti pour les protestants. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir qu'elle ne semble pas véritablement sensible à la pitié vis-à-vis des traitements qu'on leur fait subir.
Oui.
Et cette attitude est très largement partagée par les contemporains, parce qu'on voit que Bussy-Rabutin dit exactement la même chose, sauf erreur. Il n'y a guère que Vauban qui, dans le siècle, va oser s'exprimer sur la question de la révocation. Donc tout ça, la question du jansénisme, la question de la révocation, ça traverse la correspondance. Et il y a une notion, je crois, qu'il faudrait évoquer, parce que c'est la notion à laquelle Madame de Sévigné a le plus souvent recours, c'est celle de la providence. C'est-à-dire que voilà. Alors cette notion de providence, il est probable qu'elle l'a assimilé dans ses lectures François de Sales de la Philothée dans son enfance. Et donc finalement, c'est une sorte de refuge. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont dans l'ordre de la Providence. Et quant à la dévotion, elle n'est pas dévote.
N'est pas dévote. Sur le plan politique, comment se situe-t-elle par rapport au pouvoir absolu du roi, par rapport aux réminiscences éventuelles de la Fronde ?
Eh bien, Madame de Sévigné éprouve une grande admiration pour Louis XIV et Bussy lui reproche d'admirer le roi, surtout lorsqu'il a dansé le menuet avec elle. Donc, il est un grand homme lorsque...
Ça peut se comprendre, oui.
Voilà. Maintenant...
Sur le plan politique.
Voilà. Maintenant, elle ne cède pas sur sa critique ou sur ses opinions, mais elle ne les exprime pas ou de façon extrêmement détournée. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que une partie des lettres ne transite pas par la poste, et notamment toutes les lettres qui concernent le procès Fouquet vont transiter par des porteurs privés.
C'est plus sûr.
Bah bien sûr, parce que beaucoup de lettres se retrouvaient ouvertes sur le bureau du roi.
Oui, hein, tout le monde le savait.
Plus ou moins. Oui. Le cabinet noir n'existe pas encore. C'est quelque chose qui va être institutionnalisé lors du règne de Louis XV. Mais la confidentialité du courrier, eh bien, c'est quelque chose qui n'existe pas.
D'accord. Alors, on arrive bientôt au terme de cette édition des Racines du présent consacrée à Marie de Sévigné et au grand siècle. Camille Esmain, en un mot, pourquoi aimez-vous cette littérature du XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui vous touche?
Alors, ce sont des textes qui présentent une grande modernité dans leur écriture. Alors, les textes dont on est en train de parler, hein, les lettres de Madame de Sévigné, les romans de Madame de Lafayette, les Maximes de Rochefoucauld, ce sont des textes qui, me semble-t-il, nous parlent aujourd'hui parce que il y a eu une réflexion sur sur l'homme, sur son statut dans la société,
sur son destin.
Mmh. Y a une certaine universalité, bien entendu, mais il me semble aussi que cette réflexion, elle met en avant un certain nombre d'éléments qui peuvent nous parler aujourd'hui. Bon, a fortiori, ces œuvres féminines, celles de Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, parce qu'elles mettent en avant un point de vue féminin sur, et la possibilité d'une participation féminine à la vie de la société de leur temps.
Geneviève Haroche-Bouzinac, vous opinez du bonnet.
Oui, tout à fait. Madame
de Sévigné était-elle une féministe? Pardonnez-moi le caractère.
Je suis d'accord avec ce que dit Camille à propos de la pureté de la langue, à propos des fondements de ce qu'on appelle aujourd'hui le classicisme. Hein, il faut bien le dire, c'est là, au XVIIe siècle, qu'on le trouve. Alors, quant à parler de féminisme, sûrement pas, mais il y a une façon féminine d'envisager les choses et comme vous l'avez dit dans l'introduction à l'émission, eh bien de forme d'émancipation des femmes par la culture, eh bien c'est tout le mouvement de la préciosité, c'est tout le mouvement des femmes savantes. Madame de Sévigné a côtoyé des femmes chimistes, par exemple, comme Marie de Meurdrac, etc. Donc il y a effectivement tout un mouvement.
Il se passe quelque chose, tout à fait.
Et ce mouvement qui a été ridiculisé par le théâtre de Molière, il ne faut pas oublier que c'était un mouvement qui avait ses lettres de noblesse, sa légitimité. Et donc, peut-être que les féministes d'aujourd'hui pourraient y trouver des sources d'inspiration.
Très bien. Bah, écoutez, grâce à vous, mesdames, nous allons nous replonger d'une part dans la correspondance de Madame de Sévigné. Je rappelle le titre de votre biographie, Geneviève Haroche-Bouzinac, Madame de Sévigné chez Flammarion. Puis peut-être allons-nous nous replonger également dans les œuvres de Madame de Lafayette que vous, Camille Esmain-Sarrazin, vous avez édité en Pléiade, dans la prestigieuse collection Pléiade chez Gallimard. Un grand merci à vous deux pour nous avoir permis d'explorer les coulisses du grand siècle. Un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame, et vous pouvez nous écouter ad libitum, comme on dit en français, en balado-diffusion, en podcast, réécouter les précédentes éditions des Racines du présent. Un grand merci à vous tous et à la semaine prochaine.